Il est presque 12h57, Olivia Jasbert.
Tout de suite, la deuxième partie de la grande table. L'actualité des idées comme chaque jour, chaque midi, dans cette deuxième partie de la Grande Table avec Antoine Mercier et notre invité, le philosophe linguiste Jean-Claude Milner, pour son essai « Relire la Révolution » aux éditions Verdier. La judéité, l'engagement politique, l'universalisme, le temps, le langage, la vie intellectuelle sont autant de champs, de concepts que vous avez explorés. Et bien sûr les révolutions. Avec « Relire la Révolution », un ouvrage à mi-chemin entre l'histoire et la philosophie politique, vous interrogez, Jean-Claude Milner, l'idée de révolution et ses réalisations soviétique, chinoise, entre autres, et 1789 comme parangon de révolution. La révolution que vous mettez en parallèle avec votre propre engagement, maoïste notamment. Pourquoi relire la révolution à la lumière du présent pour comprendre ce qu'il nous est permis d'espérer? Bonjour Jean-Claude Milner.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment allons-nous, Jean-Claude Milner, globalement, avant d'interroger ce concept de révolution, quand vous posez aujourd'hui comme philosophe un regard sur l'état de la société? Qu'est-ce que vous voyez?
Ça dépend si je regarde la société française ou les sociétés démocratiques en général ou les diverses sociétés du monde. Si je regarde la société française, je vois une société traversée par l'incertitude sur elle-même, en vérité. Et si je regarde les sociétés démocratiques, celles qu'on reconnaît pour telles, je retrouve fondamentalement la même incertitude. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui affecte l'ensemble du modèle social démocratique.
Est-ce que c'est mauvais, ces incertitudes, ou est-ce que le
je pense que
le
c'est
doute
que
peut c'est être productif.
Que ça peut être mauvais si cette incertitude est liée, comme elle l'est actuellement, à la peur. Une incertitude qui est une interrogation qui fait aller de l'avant, bon, ça peut avoir des effets tout à fait bénéfiques, mais actuellement, les incertitudes que je crois qu'on peut observer sont des incertitudes liées à la peur, renforcées par un discours politique qui est dans pratiquement toutes les sociétés démocratiques, un discours qui est un discours qui met en lumière des raisons d'avoir peur, qui sont des raisons tirées de l'actualité économique dans certains cas, politico-militaire dans d'autres. Et cette présence de la peur au sein de l'incertitude me paraît en elle-même porteuse de graves dangers.
Et dès lors, comment combattre la peur? Comment renforcer, consolider les forces vives?
Je pense que c'est là véritablement une question politique et non pas une question sociale. Bien entendu, il y a toujours des éléments de mesures sociales qui s'imposent, mais c'est vraiment une question de politique. Et l'appauvrissement du discours politique actuellement se mesure au fait qu'il n'y ait pas d'alternative proposée dans ce discours, en quelque sorte, aux mises en garde. Ou alors, ce sont des alternatives qui sont rhétoriques. On dira des choses du genre, la France est une idée, la France est un projet, l'Europe est une promesse, la démocratie l'emportera toujours. On peut toujours dire des phrases qui sont des phrases qui présentent l'espérance comme une espèce de garantie vide face à une peur qui, elle, est une menace présente.
Jean-Claude Milner, venons-en à votre essai qui vient de paraître aux éditions Verdier, Relire la Révolution. Pourquoi, selon vous, la Révolution française ne peut pas être mise dans le même sac que les autres révolutions soviétiques, chinoises, américaines, sud-américaines, cubaines? Pourquoi est-elle à part? Est-elle presque, à vous lire, la seule authentique révolution politique?
Il y a deux questions dans une. La première question, pourquoi peut-elle être mise à part, je dirais fondamentalement parce qu'elle a réussi par rapport à son projet. Elle a réussi. Son projet était de modifier, de supprimer les privilèges. Elle les a supprimés. Son projet était de résoudre la question agraire. Elle l'a résolu d'une manière qui, jusqu'à présent, n'a pas été remplacée. Elle s'est proposée de définir une figure du pouvoir qui soit autre que la figure du pouvoir monarchique, de telle façon que le pouvoir monarchique lui-même, la notion de pouvoir monarchique elle-même, soit transformée de l'intérieur. Tout cela, elle l'a réussi. Alors que les autres révolutions, je pense à la révolution soviétique et à la révolution chinoise, n'ont pas réussi par rapport aux objectifs qu'elles se proposaient elles-mêmes. Ça, c'est une première distinction. La deuxième distinction, c'est que le mot révolution, tel que nous l'employons aujourd'hui, et tel que on l'emploie pour parler de la révolution soviétique ou chinoise ou cubaine, est déterminé par l'exemple de la révolution française. Et évidemment, la Révolution française n'est pas déterminée par son propre exemple. Elle est en quelque sorte créatrice de, non pas du mot, le mot est antérieur, mais créatrice de l'interprétation politique que l'on va donner à ce mot. D'un certain point de vue, on peut dire que avant elle, le mot révolution n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui, que le sens qu'on lui donne aujourd'hui est déterminé par la Révolution française, mais qu'en fait, la Révolution française est dans le passage, et d'un certain point de vue, le paradoxe, c'est que le sens que nous accordons au mot révolution ne s'applique pas non plus à la Révolution française. Elle crée ce sens, mais elle n'en est pas elle-même dépendante.
En gros, brosser à grands traits, qu'est-ce que l'on entend, peut-être à tort, par révolution aujourd'hui? Comment la voit-on et quelle serait la juste définition pour vous, Jean-Claude Milner?
Eh bien, si l'on prend l'emploi du mot révolution, l'emploi du mot révolution est déterminé par les grands exemples, c'est ce que j'appelle la croyance révolutionnaire, ou qui est scandée par les grands exemples, la révolution soviétique, la révolution chinoise étant les exemples majeurs, et on y inclut dans cette croyance la révolution française. Dans cette représentation-là, il y a un certain nombre de traits. Il y a un certain nombre de traits parmi lesquels la conquête du pouvoir politique, parmi lesquels la destruction d'une classe telle que, par exemple, la bourgeoisie pour la révolution soviétique, ou telle que la classe intellectuelle pour la révolution chinoise. Et fondamentalement, l'idée que la révolution c'est une temporalité longue, de telle façon qu'on peut parler de forme politique révolutionnaire.
Alors
que la révolution française pense la révolution comme un temps court, exceptionnel, qui ne doit pas durer et qui ne se traduit certainement pas par la destruction d'une classe, par l'affaiblissement d'une classe, certainement, l'aristocratie par exemple, mais certainement pas par sa destruction. Et donc il y a de grosses différences entre la configuration que la croyance révolutionnaire s'est construite et la réalité de la Révolution française.
Alors, croyance révolutionnaire, idéal révolutionnaire, idée de révolution, révolution idéale, vous jouez, définissez, maniez tous ces concepts dans ce relire la révolution. Jean-Claude Milner, il y a une dernière question sur cet effort de définition à se poser, c'est qu'est-ce qu'être révolutionnaire ? Vous écrivez, être révolutionnaire, ce n'est pas savoir de quelle métamorphose du monde l'acte que j'accomplis en pleine connaissance de cause aura été tout à la fois la cause et le révélateur. Qu'est-ce qu'être révolutionnaire ? On va écouter ce qu'en disait l'écrivain éditeur Maurice Nadeau en 78.
L'art et le style paraissent souvent insurrectionnels. Vous êtes un révolté, vous ?
J'ai été un révolutionnaire, je crois que je le suis encore dans une certaine mesure, bien que le domaine où ça s'exerce se soit un peu déplacé. Enfin, je veux dire, la révolution, pour moi, elle peut être que politique et sociale, bien entendu, mais on a appris, et depuis un certain temps, qu'elle doit être morale, elle doit faire sur un certain, sur un certain plan, enfin, des genres de vie, des conditions de vie, etc., et des façons de raisonner, de penser, de sentir. C'est à quoi on assiste d'ailleurs actuellement, mais c'est pas un acte qui tombera du ciel, c'est pas un grand soir, c'est une chose qui se passe tous les jours. La révolution, elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire et le rythme s'accélère, surtout depuis 68, et j'ai l'impression que, bon, j'y contribue pour ma part.
Et vous, Jean-Claude Milner, est-ce que vous avez été révolutionnaire ?
Très certainement, mais dans l'espace, précisément, de la croyance révolutionnaire. C'est pour ça que je me suis attaché à analyser cette croyance. J'ai été maoïste, et le maoïsme de langue française, le maoïsme chinois, je ne peux pas me prononcer, le maoïsme de langue française que j'ai bien connu, je signale en passant que Patrick Buisson vient de lui faire un grand emprunt, puisque il a intitulé son livre « La cause du peuple », qui était le titre d'un des principaux journaux du maoïsme français après 68.
L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore identifié, là, je me permets de préciser.
Qu'est-ce que vous y voyez dans cette reprise ?
Je pense que Patrick Buisson est quelqu'un qui a très certainement lu Mao Tse-tung. Et je pense que ça veut dire quelque chose sur la manière dont il entend conquérir le pouvoir. Lui et ceux qui pensent comme lui, c'est-à-dire pas Nicolas Sarkozy.
Parce que ce qui est intéressant vraiment dans votre livre par rapport à cette histoire de croyance, c'est que vous nous dites pourquoi est-ce qu'il faut relire la révolution aujourd'hui, c'est que précisément elle sortirait de ce temps de croyance pour réapparaître comme événement qui pourrait être donc revisité sans, j'allais dire, entre guillemets, le parasitage d'une croyance.
Oui, je pense que c'est effectivement ce qu'implique le relire que je propose. Relire la révolution au sens large, toutes les révolutions possibles, et au sens étroit, la révolution française, celle qu'on appelle en France la révolution, il faut la relire parce que la dimension de événementielle est alors épurée, en quelque sorte. Et la possibilité d'un événement, qu'un événement apparaisse, est ouverte. Maintenant, je ne suis pas du tout en mesure, moi, de dire quels seront les traits de cet événement. Pas plus, d'ailleurs, que n'en était en mesure de dessiner les traits de la Révolution, ceux qui l'ont fait, je parle de la Révolution française.
Vous voulez dire que ça augure un événement nouveau révolutionnaire, cette situation ?
Oui, je pense que cette question s'ouvre. Un événement qui soit totalement détaché de la croyance révolutionnaire est en tout cas une question qui a de nouveau un sens, alors que précédemment, puisqu'on était en dépendance de la croyance révolutionnaire, elle n'en avait plus. Alors cela dit, je répète, je ne prévois rien. C'est-à-dire, je ne dis pas ça va se passer, et si ça se passe, je ne dis pas que ça aura telle et telle caractéristique. L'événement, s'il se passe, se passera peut-être de manière qu'on ne reconnaîtra pas, ou qu'en tout cas quelqu'un comme moi ne reconnaîtra pas.
C'est pas une prédiction, en somme.
Empêché par mon propre savoir.
Alors, Pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent, je vais essayer de vulgariser un peu ce que vous développez en 300 pages. Effectivement, vous nous dites que l'événement fondateur qu'a été la Révolution française s'est transformé en croyance révolutionnaire qui a nourri les révolutions ultérieures et a fini avec le temps par effacer l'événement lui-même, la Révolution française. Une croyance née de l'événement qui a fini par le surplomber quelque part, avant de disparaître à son tour sous le poids d'autres événements comme le 11 septembre, dont on commémore les 15 ans cette année, un événement qui ressemblerait, ou dont on pourrait dire qu'il est à l'impact révolutionnaire dans le sens où il a renversé l'ordre des choses, mais privé de toute idée de révolution, bien sûr, et qui a fait rejaillir l'événement derrière le mythe. Donc, revoici la Révolution française aujourd'hui, débarrassée de ses fantasmes. Qu'est-ce qu'on en fait? Quel sens lui donner, Jean-Claude Villeneuve?
D'abord, avant d'arriver au moment du sens à donner, il est nécessaire de reprendre précisément ce qu'à mes yeux elle a été, ce qui à mes yeux s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que, à partir d'un consensus qui était, bon, il est clair que l'absolutisme, ça ne fonctionne plus. Mais ce qu'on doit mettre à la place, c'est une monarchie qui conserve des traits des différentes autres possibilités, à savoir le pouvoir du peuple, le pouvoir des meilleurs, d'une aristocratie non pas fondée sur la naissance mais sur la compétence. Donc il y avait un consensus qui ressort au moment de la législative pour aller vers une constitution très inspirée de Montesquieu, avec un problème, une recherche d'équilibre entre les pouvoirs, le roi ayant d'ailleurs des pouvoirs comparables à l'actuel président des États-Unis, un droit de veto, qui permet de limiter le contraindre le pouvoir législatif, etc. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis, lorsque une constitution qui est conforme à ce projet est votée, au bout d'un an, tout est par terre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose qui très important, qui à mon avis n'a pas de précédent, ou en tout cas je n'en ai pas trouvé, c'est la fuite de Louis XVI à Varennes. En termes plus modernes, cela veut dire que le chef de l'exécutif, qui est en même temps le chef des armées, prend sa famille avec lui, quitte la capitale, et va rejoindre les lignes ennemies.
Alors ça, ce sera l'événement déclencheur.
C'est l'événement déclencheur.
Mais vous dites aujourd'hui que la croyance révolutionnaire, quelque part, a dévoyé l'idée de révolution. Et que la révolution, telle que vous la présentez, là encore, je fais court, est un événement quelque part assez pur, que rien n'entache, même pas la terreur pour vous.
Si vous voulez, la terreur est une... contrairement à ce qu'on dit souvent, est un acte politique. C'est un acte politique, pas forcément une politique à laquelle j'adhère, mais c'est un acte politique. Et il y a une grande différence à faire entre ce qui relève de la foule, par exemple les massacres de septembre, qui ne sont pas de la politique, qui sont du massacre pur, et la terreur qui est une politique. Si on ne fait pas cette différence, on met tout du côté des crimes de la Révolution et on manque la question de la politique révolutionnaire au sens strict.
Alors, à partir de là, il faut peut-être s'interroger, alors quoi ? Sur l'héritage laissé par la Révolution ou sur le sens à lui donner aujourd'hui, l'idée de révolution à la lumière du présent, invité de la deuxième partie de la Grande Table, le philosophe Jean-Claude Milner, pour son essai « Relire la Révolution ».
Sire. Sire.
Qu'y a-t-il ?
Sire. Les Parisiens ont pris la Bastille.
pris la Bastille. Pourquoi? C'est une révolte?
Non, sire. C'est une révolution.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
À force d'ignorer ce que fut la Révolution, le personnel politique l'a transformée en méduse. Son image fige ceux qui la regardent. Aussi la regarde-t-on de moins en moins. On ne peut exclure qu'elle revienne, écrivez-vous Jean-Claude Milner, en réalité et non plus en image, quand on s'y attendra le moins. C'est ce que vous évoquiez à l'instant avec Antoine Mercier. Interrogeons-nous un petit peu, si vous le voulez bien, sur ce moment, sur le moment actuel. La Révolution est-elle encore d'actualité? On va écouter les mots d'une personne qui vous est chère, l'historienne Sophie Vaniche, spécialiste, elle aussi, de la Révolution.
À mon sens, c'est un sujet d'actualité, mais toute la question, c'est comment on prend justement cette actualité. Alors l'actualité, elle est revenue en fait par l'événement, parce que le mot révolution était extrêmement dévalué, et en fait, c'est les événements du printemps arabe qui ont remis sur la scène cet objet révolution et a recréé une curiosité, y compris sur la Révolution française. On est effectivement longtemps après la Révolution française, et je crois qu'en aucun cas on peut aujourd'hui, même si on s'intéresse au personnage de Robespierre, se déclarer robespierriste. Ça n'a pas de sens contemporain. Par contre, ça a du sens de comprendre à quels obstacles, à quelles limites, à quelles apories les robespierristes ou Robespierre lui-même ou les révolutionnaires se sont heurtés pour pouvoir nous-mêmes réfléchir sur notre situation politique, ce qui n'est pas du tout la même manière de procéder.
Réfléchir à notre situation politique dans l'ombre de Robespierre, est-ce que ça a du sens de faire le parallèle? Comment ce référent peut-il agir aujourd'hui pour vous, Jean-Claude Milner? Et je précise juste entre parenthèses que mardi 4 octobre, il y aura une rencontre animée par Sophie Vaniche à la Maison de la Poésie avec vous, Jean-Claude Milner, pour présenter ce livre autour donc de la relire la Révolution.
Robespierre est incompréhensible si on ne fait pas appel à ce que j'appellerais, après d'autres, la situation d'exception. Pour moi, une clé fondamentale, c'est sa position concernant la peine de mort appliquée à Louis XVI. Il a tenu un grand discours à la Constituante pour abolir la peine de mort. Et ce discours mérite d'être relu. C'est un discours absolument remarquable. Et je dois dire, c'est, à mes yeux, l'un des plus beaux et plus forts discours dirigés contre la peine de mort. Et lorsqu'il demande l'application de la peine de mort à Louis XVI, il revient sur ce discours. Et il dit « J'ai défendu devant vous l'abolition de la peine de mort. Mais le crime que Louis XVI a commis crée une situation tellement exceptionnelle que les règles normales cessent de s'appliquer à cette situation. Et comme il en est le responsable de cette situation, elle ne s'applique pas à lui. Autrement dit, toute la clé de Robespierre concerne la notion de situation exceptionnelle par opposition à la notion de situation en quelque sorte régulière qui, elle, sera réglée par une constitution.
Et donc, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui?
Oui, je pense que ça a beaucoup de sens.
Cet événement dont vous parlez précisément, oui. Il faudrait que vous nous disiez qu'est-ce qui en marque les signes avant-coureurs. Vous parlez beaucoup de réel et de réalité, comme si les signes du réel revenait aujourd'hui plus nettement. Où les voyez-vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites cette analyse-là pour aujourd'hui?
Eh bien, à la différence de ce qui se passait au XVIIIe siècle, pour nous, la réalité, c'est-à-dire ce qui est consistant, ce qui fait en quelque sorte, qui leste nos représentations, la réalité, c'est essentiellement l'économie, le fonctionnement économique de la machine mondiale. Bon. Les points de réel, ce sont des points qui font apparaître que l'approche économique se révèle inadéquate ou insuffisante. Ce qui ne veut pas dire que ces points de réel permettent par eux-mêmes de déterminer ce qui serait adéquat. Je prends l'exemple des révolutions arabes qui a été évoqué. Les révolutions arabes, dans leur émergence, au moment de leur émergence, ont très bien montré que leurs possibilités ne s'expliquaient pas de manière suffisante par une analyse de type économico au sens économico-politique. Mais les révolutions arabes en elles-mêmes n'ont donné aucune clé qui permette de construire une forme permanente, c'est-à-dire une constitution qui réponde à la question qu'elles avaient soulevée. Et c'est cela le passage compliqué. Comment on passe de l'émergence du réel qui se présente toujours comme une situation exceptionnelle, comment on passe à une régularité, en l'occurrence une régularité constitutionnelle. C'est là qu'il ne faut pas se rater.
Et ça interroge quelque part à savoir si la révolution peut être un modèle et un modèle exportable ou pas. Pour terminer en 30 secondes, Jean-Claude Milner, avec Nuit debout, Place de la République, on a entendu des manifestants, des citoyens, le 10 avril, parler de la nuit du 40 mars et donc de se référer en 2016 au calendrier révolutionnaire. Est-ce que c'était une manière de s'en réclamer à tort ou à raison de cet idéal ou de cette idée de révolution?
Je pense dans leur esprit, oui, très certainement.
À tort pour vous?
Dans la réalité, ce qui a manqué à Nuit debout, c'est la dimension d'exception. La Nuit debout, telle que je l'ai perçue, c'est peut-être injuste ou inexact, m'a paru entrer dans une forme de régularité de l'opinion française, c'est-à-dire un moment où la jeunesse se concentre en un point sur une mobilisation qui dure un temps relativement limité et qui, en fait, permet à l'ordre globalement établi de se battre la coulpe en disant « nous n'avons pas répondu à l'attente de la jeunesse » ou « nous n'avons pas répondu à l'attente des plus pauvres » ou « nous n'avons pas... » bon. Et une fois qu'on a... Enfin, c'est comme dans l'Église catholique, on bat la poitrine en disant « c'est ma faute, ma très grande faute », puis on sort de l'Église et on achète un gâteau et on va déjeuner. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour Nuit debout.
Merci beaucoup Jean-Claude Milner. Relire la Révolution vient de paraître aux éditions Verdier.
La Grande Table, le rendez-vous du médiateur.
Comme un jeudi sur deux, place au rendez-vous du médiateur des antennes de Radio France, Bruno Audenès, bonjour.
Bonjour Olivia Jasper, bonjour à tous.
Vous allez nous parler de science aujourd'hui avec Nicolas Martin, qui propose tous les jours sur France Culture, depuis la rentrée, la méthode scientifique.
Bonjour Nicolas Martin.
Bonjour.
Alors, la méthode scientifique remplace depuis la rentrée culture-science des années précédentes. Évidemment, des auditeurs font des comparaisons et plusieurs d'entre eux estiment que la méthode scientifique est trop grand public. Comme nous l'a écrit Daniel d'ailleurs, qui ajoute « l'auditeur perd le moyen de s'informer plus à fond des thèmes scientifiques ». Alors seriez-vous un peu trop simpliste ?
Alors avant de répondre à l'accusation de simpliste, je voudrais déjà dire un mot de la transition qu'il y a eu entre culture-science et la méthode scientifique, qui a été faite notamment grâce à Michel Alberganti, qui a accompagné les débuts de cette émission et à qui je veux rendre hommage aussi, parce que c'est lui qui a contribué à construire cette nouvelle émission. Quant aux accusations de simplisme, eh bien j'enjoins Daniel à aller jeter une oreille à nos émissions, notamment sur la physique des particules et sur le CERN, sur l'intelligence artificielle ou sur les maladies neurodégénératives. Je pense qu'on a pu, à certains moments de ces émissions, rentrer dans des points relativement précis et de science vraiment dure. Par ailleurs, l'ambition de la méthode scientifique, c'est de rendre la science accessible à tous, et donc pas seulement aux spécialistes de la science. Donc, on construit l'émission, à peu près toutes les émissions, sur le même type de modèle. C'est-à-dire que dans un premier temps, on définit le corpus, on vulgarise, à proprement parler, de quoi on va parler. Et bien, il faut reposer les bases. bases. Et une fois qu'on a posé ces bases, eh ben, on peut aller un peu plus loin. Donc, ben, si vous connaissez les bases, ça permet de réviser. Et puis, si vous ne les connaissez pas, ça permet de comprendre ce qu'on va dire après quand on va rentrer dans des choses, effectivement, un peu plus pointues et un peu plus sensibles, entre guillemets.
C'est vrai, on a l'impression que certains auditeurs regrettent que vous ne soyez pas assez élitiste.
Ah non, alors, élitiste, certainement pas. Je vous dis, l'ambition, c'est de rendre les sciences accessibles à tous. Exigeant, oui, mais pas élitiste, à la simplicité de laquelle on pourrait m'accuser. Je pense qu'il faut surtout répondre par une forme de gradualité. Encore une fois, on fonctionne sur une sorte de modèle d'entonnoir. On commence large, on repose. La méthode scientifique s'appelle pas la méthode scientifique pour rien. On a une méthode, on pose les bases de ce qui va être notre sujet, le sujet du jour. Et une fois qu'on a posé ces bases, une fois de plus, on peut être de plus en plus précis et de circonscrire de plus en plus notre sujet de discussion.
Alors il y en a d'autres comme Gérard par exemple qui regrette que vous ne fassiez pas découvrir, dit-il, des chercheurs et leurs travaux en cours dans les laboratoires.
Alors Gérard, je vais l'enjoindre aussi à écouter un peu plus attentivement l'émission, parce que non seulement tous les jours nous avons la chance d'avoir une équipe de reporters dans la méthode scientifique et on rentre dans les laboratoires, on va voir, on va écouter la science à l'œuvre, voir
sur le terrain en fait,
dans les labos, là où elle se fait, là où la recherche est en cours. Donc tous les jours on a un reportage qui nous permet d'entendre effectivement comment les scientifiques travaillent et comment la science avance et se construit pas à pas. Et puis par ailleurs, tous les mercredis, à la fin de l'émission, on a un module qui s'appelle la recherche montre en main, où un ou une jeune chercheuse ou un ou une jeune scientifique, que ce soit dans le public ou dans le privé, vient nous parler soit de sa thèse, soit de ses travaux de recherche pendant 4 minutes et est confronté aussi aux autres chercheurs, donc avec un peu plus de recul, qui peuvent initier un dialogue entre la nouvelle recherche d'aujourd'hui et puis les travaux antérieurs.
Alors certains auditeurs se sont étonnés que vendredi dernier vous soyez intéressé aux extraterrestres et aux signes qu'ils pourraient nous envoyer. Pas très sérieux, nous a écrit par exemple Philippe.
Eh bien au contraire Philippe, c'est tout à fait sérieux, c'est tellement sérieux je vais vous dire que mardi au congrès de l'astro...
Que vous avez un petit bonhomme vert dans votre jardin.
Absolument pas, mais vous savez que mardi il y avait un grand congrès d'astronautique au Mexique, à Guadalajara, et qu'ils ont passé une partie de ce congrès à étudier ce signal reçu par un radiotélescope russe. À vrai dire, rechercher la vie dans l'espace, c'est pas quelque chose de fantaisiste, ça n'appartient pas qu'à la science-fiction. Quand on écoute l'espace comme à travers le programme SETI, quand on cherche des exoplanètes, quand on cherche à trouver des biosignatures, ça veut dire qu'on cherche la vie. C'est tout un pan de la physique, de l'astrophysique, de l'exobiologie. Donc la façon dont on l'a fait a peut-être un peu surprise Philippe, mais c'est vrai que la science... Et la science-fiction, la science et la fiction n'ont cessé de dialoguer depuis Asimov, mais depuis même bien avant ça. Et parfois, on peut interroger la science à travers la fiction. Ça donne un peu d'espace pour se projeter dans un autre futur.
Alors pour être complet, nous recevons évidemment aussi des messages d'auditeurs qui apprécient quand même votre émission, il faut le dire.
J'espère
avec
bien.
Une mention spéciale pour Julie. Elle habite à l'étranger, nous dit-elle, et elle podcaste toutes vos émissions pour ensuite écouter soit sur clé USB en voiture, nous dit-elle, soit en lecteur MP3 en promenade et même sur ordinateur à la maison. Donc vous avez une vraie fan.
Merci Julie.
Merci Nicolas Martin. Et puis rendez-vous donc tout à l'heure à 16h pour...
Avec Michel Serres tout à l'heure. On va parler d'histoire des sciences et de philosophie. Ça va être sérieux, vous allez voir.
Merci.
Merci beaucoup à tous les deux. Rendez-vous dans 2 semaines, monsieur le médiateur. À tout à l'heure à l'antenne, à Nicolas Martin. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette grande table réalisée par Perret Legras avec Jacques Hubert. On se retrouve demain.